Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui sème, sortit semer sa semence. Mes très chers frères, après nous avoir parlé des ouvriers de la 11e heure, notre Seigneur nous enseigne par une autre parabole en ce dimanche de la Sexagésime. Cette longue parabole dont il donne lui-même la signification à ses apôtres dans la deuxième partie de l'évangile que nous venons d'entendre. Cette parabole, c'est la parabole du semeur, encore dite des quatre terrains. En cette préparation de carême, eh bien, l'Église ne nous cache rien de ce que nous devons savoir de l'œuvre de la grâce et sur l'œuvre de la grâce et sur nous-mêmes. Alors nous avons, avec l'aide de Dieu, plusieurs choses à voir en ce dimanche de la Sexagésime. Et la première chose, dans notre premier point, nous fera nous poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dont il est question, ici sous la forme du bon grain qui est semé? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Nous verrons comment elle est stérile et pourquoi aussi elle est répandue partout. Et nous verrons trois, d'après la parabole, trois mauvaises façons de la recevoir. Ça sera notre premier point. Notre deuxième point, eh bien, nous amènera à voir comment on reçoit la grâce à salut. Cette fois-ci, c'est la quatrième possibilité que notre Seigneur décrit. Et nous verrons, selon les auteurs spirituels, trois conditions pour qu'elle soit féconde en nous. Et nous terminerons par un troisième point, par quelques considérations sur ces trois conditions que nous aurons énoncées, et nous verrons comment et de quelle façon nous devons avoir recours à Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Celui qui sème alla semer sa semence, et tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, et ayant levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et ayant levé, elle porta du fruit au centuple. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Inlassablement, mes très chers frères, Dieu sème sa parole. Si nous écoutons ce que nous enseigne saint Paul dans le premier chapitre aux Romains, eh bien, nous verrons que les spectacles de la nature, la loi naturelle, la conscience morale rendent les hommes inexcusables de ne pas connaître Dieu. Tout ceci rend les hommes inexcusables de ne pas connaître Dieu, car l'homme a été fait au commencement pour Dieu, pour connaître Dieu et pour vivre à sa gloire et pour jouir de lui pour l'éternité. Il se trouve donc que Dieu a laissé, quoique l'homme fût déchu, Dieu a laissé dans la création, parce que Dieu les y a mises, des marques, des traces de son existence, de sa majesté, de sa grandeur, de telle sorte, nous dit saint Paul, encore une fois, que les hommes sont inexcusables lorsque, regardant la création, ou même, sous un certain point, regardant ce qui reste en eux de bon, ils ne se tournent pas vers le vrai Dieu. Mais bienheureux sont ceux dont la grâce dispose les cœurs à recevoir et à garder la parole. C'est une chose que d'être inexcusable, puis c'en est une autre que d'avoir reçu la grâce de pouvoir se tourner vers Dieu. Vous vous souvenez ce que nous avons vu ces derniers dimanches? Nous devons, tout homme est appelé à se tourner vers Dieu, car tout homme est créé pour Dieu. La seule chose, pour se tourner vers Dieu, il faut avoir la bonne volonté. Et l'homme se caractérise, la liberté de l'homme se caractérise par la mauvaise volonté. L'homme est spontanément, librement, le plus librement du monde, de mauvaise volonté. Et il faut une grâce, à cause de la chute, bien entendu, à cause de la chute. Et il faut une grâce spéciale qu'on appelle la grâce efficace pour pouvoir surmonter cette mauvaise volonté qui est à la fois maintenant un trait de la nature de l'homme déchu et en même temps quelque chose qui relève de sa liberté. C'est-à-dire que l'homme, s'il est de mauvaise volonté, il est librement de mauvaise volonté. Ce n'est pas Dieu qui le pousse à être de mauvaise volonté, ce n'est pas Dieu qui lui cache méchamment la vérité afin qu'il ne puisse pas y accéder. Ce n'est pas Dieu qui a décidé qu'il ne se révélerait jamais à lui et qu'il est une sorte de déchet de la création humaine. Ce sont des choses qui sont interdites à dire aux chrétiens, puisque ce n'est pas comme cela que l'Église nous enseigne. L'Église nous enseigne que l'homme est libre, Et dans les théologiens nous disent que la liberté de l'homme, depuis la chute, se caractérise dans le fait qu'il fait librement exactement ce qu'il veut, et ce qu'il veut va à l'encontre non seulement de la volonté de Dieu, mais aussi du bien même de sa nature. C'est-à-dire que lorsque l'homme fait exactement ce qu'il veut, eh bien il se nuit à lui-même. Donc inlassablement, Dieu jette sa parole, jette l'évidence de son existence à tous les hommes, afin qu'ils soient inexcusables. Et pourtant, encore une fois, je le répète, bienheureux ceux dans lesquels la grâce efficace dispose les cœurs à recevoir et à garder la parole. La parole de le bon grain, la semence, dit notre Seigneur dans l'explication de la parabole, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une expression qui a plusieurs sens. La parole de Dieu, à strictement parler, c'est la tradition écrite, c'est-à-dire c'est la Bible ou c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, un seul volume, un seul recueil qui est appelé la parole de Dieu, la tradition écrite que l'Église a reconnue pour telle. Donc c'est cela la parole de Dieu. Maintenant, il se trouve qu'il faut bien comprendre que la parole de Dieu désigne aussi, d'une façon un peu plus large, la prédication du contenu de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'association entre la tradition écrite, qui est la base de la révélation, et la tradition orale, qui est l'explicitation par l'Église, organe du Saint-Esprit, de ce dépôt apostolique fondamental, qui se trouve aussi en partie dans la tradition orale, puisque certaines choses n'ont pas été écrites, qui se sont simplement transmises oralement, et c'est pour cela que l'Église est la dépositaire infaillible de la tradition, de la tradition tant écrite qu'orale. L'Église est infaillible, il nous faut écouter l'Église. Donc il se trouve, mes très chers frères, que la parole de Dieu dont il est question ici, ce n'est pas simplement la parole écrite, mais c'est d'une façon plus générale la prédication de l'Église. Et si l'on peut dire d'une façon encore plus, maintenant plus particulière, c'est la substance même de l'Évangile. Qu'est-ce que la substance de l'Évangile ? La substance de l'Évangile, ce n'est pas l'Évangile en lui-même. Ce n'est pas l'Évangile tel qu'il est un texte que l'on peut diffuser par l'édition, par exemple, que sais-je. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce n'est pas cela la substance même de l'Évangile. La substance de l'Évangile, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le résumé de l'Évangile ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas cela la substance de l'Évangile. Ça, c'est le résumé, un résumé adéquat de l'Évangile fait par notre Seigneur lui-même. Et effectivement, la substance de l'Évangile est véhiculée par ce résumé de l'Évangile, ou par d'autres formes de résumé que l'Église voudra prêcher ou faire prêcher. Qu'est-ce que la substance de l'Évangile ? Alors déjà, qu'est-ce que l'Évangile ? L'Évangile, à strictement parler, c'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que cette bonne nouvelle ? La bonne nouvelle fait le pendant et le pendant de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est donc que Dieu, quoiqu'il ne le doive pas à l'humanité, qui est déchue, elle a prévariqué en faisant exactement ce qu'elle, et librement ce qu'elle voulait, Dieu ne l'a pas forcée à chuter, elle est tombée volontairement, et comme nous disions dimanche dernier, si nous avions été à la place de notre premier père Adam, non seulement nous aurions mangé le fruit, mais en plus nous aurions souillé et brûlé et probablement et détruit le paradis, tellement nous sommes mauvais si nous étions à sa place. Donc il se trouve que Dieu a laissé l'homme faire librement ce qu'il voulait. L'homme est donc, n'en a fait qu'à sa tête, et il est déchu. Il s'est donc privé lui-même de la gloire de Dieu, et il a été privé de la gloire de Dieu, puisque Dieu l'a puni. Maintenant, il se trouve qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut sauver ce qu'il veut sauver. De telle sorte que l'homme n'est pas livré à lui-même, n'est pas abandonné par Dieu, mais Dieu accepte de l'aimer afin de le racheter d'un amour rédempteur. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'Évangile. Tout résumé de l'Évangile, toute parole de Dieu prêchée, d'une manière ou d'une autre, prêchera ceci à l'humanité. Maintenant, il se trouve que l'efficace, la parole de Dieu prise dans le sens où l'entend notre Seigneur ici, eh bien, c'est l'efficace de l'Évangile. Et qu'est-ce que l'efficace de l'Évangile ? L'efficace de l'Évangile, c'est la grâce efficace. C'est-à-dire, c'est l'évangile appliqué. L'évangile, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idéologie qu'il faut répandre dans les hommes parce que ça peut faire bouger les choses. L'évangile, c'est la proclamation du désir effectif que Dieu a de sauver des hommes. Et il se trouve que la substance de l'évangile, appelée parole de Dieu dans cette parabole, c'est la grâce que Dieu donne à salut. C'est-à-dire, avec la prédication, il donne aussi une grâce pour que cette prédication soit utile. Alors évidemment, la chose qui se présente à nous, c'est qu'il se trouve que cette parole de Dieu, apparemment, 3 fois sur 4, est mise en échec par le mauvais terrain qui la reçoit. Et c'est effectivement pour cela que l'Église nous fait méditer cette parabole en ce dimanche de la Sexagésime, c'est pour que nous ne recevions pas la grâce en vain. La parole de Dieu, c'est donc la substance de l'Évangile. Il y a donc plusieurs choses à considérer. Voyons plutôt les choses négatives, et ensuite nous dirons les choses positives. Si l'Évangile doit avoir une fécondité pour l'éternité, et c'est en cela que le bon grain tombe dans la bonne terre et y porte du fruit au centuple, il se trouve que si nous cherchons à l'Évangile une fécondité dans le temps, et non pas par voie surrogatoire, chercher d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît, ça c'est évident, mais si nous inféodons la prédication de l'Évangile à un but temporel, un but patriotique par exemple, comme nous en avons déjà parlé, eh bien il se trouve que cette fécondité dans le temps que nous croyons pouvoir obtenir de l'Évangile n'est qu'une illusion. En réalité, la voix de l'Église, c'est le prédicateur qui est missionné par l'Église. On ne peut commencer à prêcher dans l'Église que dans la mesure où on est déjà dans les ordres majeurs. Par dérogation, quand on est sous diacre, surtout, les prédications est quelque chose à laquelle accède le diacre. Donc vous voyez, déjà, ce n'est même pas parce qu'on est un clerc qu'on peut enseigner le peuple de Dieu. Il faut être déjà, au-delà, disons, des ordres mineurs, il faut être déjà dans les ordres majeurs et avoir reçu l'autorisation ou avoir au moins atteint le diaconat. La voix de l'Église, c'est la voix des clercs majeurs qui sont missionnés pour semer le bon grain. Or, il se trouve que 3 fois sur 4, ceux qui sont missionnés pour semer le bon grain n'atteignent pas leur but, parce qu'il se trouve qu'ils rencontrent une des mauvaises dispositions. Donc si, lorsque les choses sont faites dans l'ordre, on peut s'attendre à ce que 3 fois sur 4, la parole de l'Évangile ne porte pas de fruits, alors quand on est dans le désordre, quand on n'est pas envoyé par l'Église, quand on cherche à l'Évangile une fécondité dans le temps, quand on est un prédicateur non missionné, eh bien, mes très chers frères, on pourrait dire que 4 fois sur 4, ou 100 fois sur 100, si j'ose dire, eh bien, la parole ne va pas atteindre son but, car elle, non seulement elle ne peut pas atteindre son but, mais Dieu fera qu'elle n'atteigne pas son but. Car il n'est pas juste que, alors que les ouvriers missionnés travaillent de façon si laborieuse et si pénible pour avoir beaucoup de fruits, bien entendu, mais après avoir semé beaucoup en vain, il n'est pas juste que Dieu, eh bien, donne de la fécondité à quelque chose qui est une usurpation. Alors, vous allez dire, il y a des fruits, on voit des fruits. Celui qui n'amasse pas avec moi, dit notre Seigneur, disperse. On voit des fruits, mais des fruits de temporalité, des fruits temporels. Vous allez dire, mais les fruits, ils doivent être temporels, bien entendu. Nous ne disons pas le contraire, qu'il faut que un fruit n'est un fruit que dans la mesure où il se vérifie dans le temps, sous un certain rapport, ou au moins qu'il y ait une amorce. Mais le fruit véritable, c'est la vie éternelle. Donc le fruit, dans l'absolu, c'est un fruit qui ne se vérifie qu'aux yeux de Dieu, au-delà de la mort. Alors il se trouve, mes très chers frères, que semer sans avoir reçu la mission pour semer, c'est véritablement faire l'œuvre du diable. C'est véritablement stériliser la semence, ou alors c'est, d'une certaine manière, faire avec la parole de Dieu, comme font ces grands trusts d'agriculture qui sont dénoncés par tous ceux qui aiment les bonnes choses, si j'ose dire, je le dis avec un petit peu d'humour, il se trouve qu'ils jettent en terre une semence, mais qui a été traitée de telle sorte que cette semence porte une fois un certain fruit et soit incapable de se reproduire. C'est cela, au mieux, la semence et les fruits qui sont rapportés, qui reviennent à ceux qui sèment sans être missionnés. Ils stérilisent la semence, au mieux, et au pire, ils font l'œuvre du diable. Ils répandent des idées, ils répandent même des intentions de prière, ils disent toutes sortes de choses, ils exhortent, ils reprennent, ils tensent, etc., alors qu'ils ne sont pas missionnés. On en voit même qui quittent la soutane pour pouvoir mieux prêcher et mieux se livrer à leur ministère sur l'internet. Ils prêchent, ils se démènent face à la caméra. C'est extraordinaire. On dirait des caricatures de prédicateurs. Et il se trouve qu'ils ne sont pas missionnés. Malheur, mes très chers frères, malheur à ceux qui les cautionnent. Les prêtres, a fortiori les évêques, qui cautionnent ce genre de mascarade, profanent l'évangile. Eux sont peut-être missionnés, s'ils sont missionnés, mais ils profanent l'évangile dans la mesure où ils le laissent profaner. Si vous laissez profaner quelque chose de grand comme l'évangile par quelqu'un qui est soi-disant sous votre gouvernance, sous votre protection, que sais-je, ou sous votre non-juridiction, eh bien, il se trouve alors, eh bien, mes très chers frères, que vous êtes vous-même coupable de ce que vous laissez faire aux autres. À moins évidemment que vous avouiez que vous n'avez absolument aucun moyen de contrôle, etc. Mais alors là, bon, on va dire c'est un autre problème évidemment, et c'est un problème en effet. Alors mes très chers frères, vous voyez, la parole de Dieu est très féconde parce qu'elle est la substance même de l'évangile. Mais la substance de l'évangile requiert une bonne terre. La substance de l'évangile, c'est pas une recette magique qui prend n'importe où. C'est pas comme ces cols extraordinaires qui collent sous l'eau, qui collent sous la pluie, qui collent. Ce n'est pas cela l'évangile. L'évangile, c'est pas un truc qui est fait pour fonctionner et épater le badaud. L'évangile, la substance même de l'évangile, c'est Dieu à l'œuvre pour s'unir des âmes pour lesquels son Fils a versé son sang et qu'il a aimé de toute éternité. Vous comprenez que l'Évangile ne peut pas, d'une part, se profaner, ne doit pas se profaner, et que l'Évangile est une semence extrêmement puissante qui ne germe que là où elle veut germer, c'est-à-dire qui ne germe que dans la terre qu'elle-même s'est préparée. L'Évangile, c'est le Verbe éternel de Dieu. Et la terre bien préparée, ce n'est autre que la Sainte Vierge, en réalité. Notre Seigneur parle en parabole à qui donc ? Écoutez, vous allez voir que si notre Seigneur donne cette parabole et qu'il crie par la suite que celui-là qui a des oreilles, s'il donne cette parabole, c'est dans un contexte bien particulier. En ce temps-là, comme une grande foule s'était assemblée et qu'on accourait des villes auprès de Jésus, il dit en parabole, comme une grande foule s'était assemblée et qu'on accourait des villes auprès de notre Seigneur. Ailleurs, dans un autre passage de l'Évangile, il est dit que beaucoup de gens suivaient notre Seigneur, mais que notre Seigneur n'avait pas confiance en eux, car il connaissait leur cœur. Notre Seigneur, voyant ces foules accourir vers lui, eh bien, les commentateurs nous disent qu'il voyait que les gens s'approchaient en hâte. En tout cas, dans ce contexte-là, ça n'a pas toujours été le cas, il faut le dire. Les foules des béatitudes ne sont pas du tout dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, c'est le cas. Il se trouve que les foules venaient s'approcher en hâte à l'ouïe d'un nouveau spectacle, un nouveau prédicateur, quelque chose à aller voir, quelqu'un qui fait des miracles, un saltimbanque. Vous voyez, non pas que les gens prenaient notre Seigneur pour un saltimbanque, mais ils se seraient précipités vers un battleur, un saltimbanque, un jongleur, quelqu'un qui aurait apporté un spectacle nouveau. Et c'est pour cela que notre Seigneur a dit cette parole, cette parabole qui est terrible d'une certaine manière. Celui qui sème a la semé sa semence, et trois fois sur quatre, la semence ne porte pas de fruits. Pourquoi ? Parce que les gens qui écoutent ou qui entendent cette parole sont mal disposés, quoique la parole ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. S'il ne faut pas aller vers notre Seigneur comme vers quelque chose qui peut nous servir, fût-ce pour le bien, que sais-je, de notre nation, de la grandeur, que sais-je. Il faut aller à notre Seigneur comme celui qui peut nous sauver, qui peut sauver les hommes, et qui peut, à ceux qui cherche le royaume de Dieu et sa justice avant tout, donner aussi, s'il le veut, par surcroît, le manger et le vêtir. Il y a beaucoup de présomptions chez ceux qui s'imaginent qu'un tel discours est un discours qui est apolitique et qui verse dans le quiétisme. S'ils savaient combien, s'ils se regardaient dans la glace et qu'ils voyaient combien leurs espoirs et leurs manigances sont vaines, stériles, à cause d'eux-mêmes, ils se rendraient compte que chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est véritablement l'essentiel, et ils pourraient faire l'expérience du surcroît qui est donné, du tout qui est donné par surcroît. Mais non seulement ils ne font pas l'expérience du millionième de ce tout qu'ils voudraient, mais en plus, ils n'iront même pas au ciel puisqu'ils ne cherchent pas le royaume de Dieu et sa justice. Il faut chercher le royaume de Dieu et sa justice, il faut chercher notre Seigneur Jésus-Christ, il faut écouter l'Évangile pour ce que cela est, c'est-à-dire la puissance du salut pour quiconque croit. L'engouement pour la religion, que beaucoup de militants cherchent à susciter, est au mieux, à cela répond au mieux un mouvement charnel, une fin temporelle, une arrogance puérile. Je suis devenu catholique, je suis maintenant fier, maintenant j'ai compris que tous les autres sont dans l'erreur, moi. J'ai compris que je suis pécheur. Ah oui, il ne faut pas exagérer. On ne va pas dire ça parce que sinon on va passer pour des déjà que les musulmans nous méprisent, que les laïcars nous rient de nous. On ne va pas commencer avec ces histoires de péché, etc. Ça, on garde ça pour le confessionnal. Alors, il faut être fier devant ses ennemis. Non, fier devant ses ennemis. Ses ennemis, il ne faut pas les voir. Il faut voir que le Dieu qui va nous châtier si nous ne faisons pas sa volonté. Si nous le spolions de la nature humaine qu'il nous a donnée, qu'il nous a fait donner par nos parents. Nous sommes redevables à nos parents en premier pour notre nature humaine, et pas à Dieu directement, mais à nos parents, à Dieu par nos parents, d'où la piété filiale. Si nous n'accomplissons pas la finalité de la nature humaine pour Dieu et à la gloire de Dieu, eh bien ce Dieu-là ne nous demandera pas des comptes de ce que nous aurons fait pour notre nation, pour l'économie, pour la politique, il nous demandera des comptes de ce que nous aurons fait par rapport à lui. Et si nous lui disons, si nous avons l'audace de lui dire « Oui, mais j'ai voulu m'occuper de ces choses qui sont quand même importantes, mon Dieu », il vous aurait dit « Tout ceci fait partie du surcroît. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mes très chers frères, il est dit « Tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, une autre partie tomba sur la pierre, et une autre partie tomba dans les épines. » Dieu s'adresse à tous, car tout homme, nous l'avons dit, est tenu d'obéir à Dieu et d'aimer Dieu. La chute n'a pas dispensé l'homme de réaliser sa raison d'être, qui est de glorifier Dieu par ses actions. Il y a donc trois façons de recevoir la parole de Dieu, qui sont des mauvaises façons. La première façon, dit notre Seigneur, écoutez-la, tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et dans l'explication, il dit, le Fils de Dieu dit, ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent. Ensuite, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Mépriser ou négliger la parole de Dieu, mes très chers frères, c'est transformer son cœur en chemin sur lequel tout le monde passe, et si j'ose dire, toutes sortes d'informations passent, toutes sortes de choses, de données passent, et qui, en quelque sorte, foule au pied la parole de Dieu, qui est cette graine délicate qui y tombe généreusement. On pourrait dire qu'elle, maintenant avec les nouvelles façons de semer, on ne perd plus tellement de grains. Vous voyez la générosité de Dieu. Celui qui, dont le cœur est battu par le pas pressé de ses intérêts mondains, ne peut pas dire « je n'ai pas reçu la parole de Dieu ». La parole de Dieu est tombée même sur la terre battue. Dieu s'adresse à tout le monde. Il ne néglige personne. Personne n'est exclu a priori du ciel. Il se trouve néanmoins que beaucoup méprisent ou négligent la parole de Dieu. La puissance du démon, nous dit un auteur, la puissance du démon sur le cœur des gens du monde et de ceux qui ont l'esprit du monde, ça c'est pour les chrétiens, et de ceux qui en ont l'esprit, la puissance du démon donc est plus grande qu'on ne l'imagine. Le diable est jaloux de l'homme. Parce que l'ange, lorsqu'il a chuté, n'a plus eu de possibilité de faire pénitence et d'être restauré dans la grâce. L'homme tombe, il tombe 1000 fois, il tombe 100 000 fois, il tombe 100 000 millions de fois, il y a toujours une grâce pour l'aider à se relever. Le démon est avide de reprendre ses droits sur l'homme, sur le chrétien, droit qu'il a perdu au baptême. Le chrétien, le candidat a renoncé au diable, à ses pompes, à ses œuvres, et le baptême a délié les liens qui faisaient qu'il était sous la servitude du démon. Eh bien, mes très chers frères, le démon, rien que pour cela, campe et tourne autour de ceux qui sont baptisés afin d'essayer de trouver qui dévorer, de trouver une proie, de trouver une occasion, de trouver une faille dans la muraille par laquelle il puisse, je ne dis pas s'engouffrer, mais passer une griffe et à partir de là ramener tout ce qu'il peut ramener à lui. Ce n'est pas lui qui vient à nous, dans un certain sens, comme s'il venait chez nous, c'est nous qui allons chez lui, attirés par notre vieux maître. Et ce n'est pas parce que c'est un maître hideux et monstrueux que nous ne l'aimons pas. Parce que c'est un maître qui nous laisse faire exactement tout ce que nous voulons, tandis que Dieu apparaît comme le maître rigoureux et inexorable qui ne nous laisse non seulement pas faire ce que nous voulons, mais encore nous dit une autre parabole mystérieusement qui récolte là où il n'a pas semé. C'est très mystérieux. L'avidité du diable de reprendre ses droits sur nous est telle, mes très chers frères, que saint Pierre nous dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Comment s'y prend-il ? Eh bien, mes très chers frères, en nous faisant simplement nous complaire dans les divertissements, en nous faisant nous complaire au sens pascalien du terme, c'est-à-dire dans tout ce qui nous détourne de la voie droite, de tout ce qui nous détourne de notre état, de tout ce qui nous détourne même provisoirement de ce que nous devons faire. Par divertissement, nous n'entendons pas une saine et sainte récréation que nous pouvons avoir, car il faut de temps en temps se récréer et arrêter de faire certaines choses pour pouvoir respirer un petit peu. Il faut détendre l'arc qui ne doit pas être tout le temps tendu. Nous ne parlons pas de ces divertissements, de ces récréations légitimes et qui sont faites dans la lumière et sous le regard bienveillant de notre Père Céleste. Nous parlons des divertissements au sens de ce qui nous divertit du but qui doit être le nôtre. Lorsque nous nous récréons saintement, nous ne perdons pas de vue la sanctification, c'est pour ça que nous ne nous récréons pas d'une façon qui est mauvaise. Un chrétien ne peut pas se détendre, lui qui fait très attention au péché mortel, en jouant par exemple à des jeux vidéo quelconques, d'ailleurs pas simplement ceux dans lesquels on tue son prochain en ligne. On peut jouer à des jeux vidéo complètement stupides où on bâtit un monde, stupides dans leur fond, ils sont pas stupides, ils sont très intéressants. Mais vous voyez, des jeux vidéo qui nous détournent du devoir de notre sanctification, où nous nous jetons à corps perdu, en quelque sorte, dans des réalités parallèles dans lesquelles, virtuellement, si l'on peut dire, nous accomplissons notre volonté propre, chose que nous ne ferions pas dans la vraie vie. Mais il se trouve que quand nous sommes dans ces jeux-là, nous sommes en dehors, en quelque sorte, de la vraie vie. C'est un divertissement diabolique, c'est-à-dire un divertissement qui nous détourne, qui nous divertit de notre devoir de sanctification, que nous ne devons jamais abandonner. Il y a dans les divertissements un danger pour les chrétiens. Nous avons parlé des jeux vidéo parce que c'est très à la mode aujourd'hui à cause de la technologie, mais on pourrait trouver toutes sortes d'autres choses, chacun décline comme il peut, il faut avancer. Donc, ce genre de divertissement, les divertissements sont autant de dangers pour les chrétiens qui est tenté de déposer le christianisme un instant pour n'être plus qu'un homme. Et c'est une idée qui ne date pas d'hier, mais c'est une idée totalement fausse et hérétique. Et celui qui n'est plus qu'un homme, ayant déposé l'armure qu'il a reçue au baptême, et plus spécialement à la confirmation, devient la proie du démon. Lorsqu'un chevalier qui a reçu les armes est en armure, peu de choses peuvent lui nuire, puisqu'il est protégé contre les attaques, contre les traits, contre les coups de poignard, contre beaucoup de choses. Il doit faire attention, bien entendu, mais il est protégé contre beaucoup de choses. La seule chose, lorsqu'il se détend, justement, lorsqu'il se divertit, et qu'il ôte son casque et sa cuirasse, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient comme Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire susceptible d'être blessé beaucoup plus qu'il ne l'était auparavant. Donc vous voyez, mes très chers frères, le démon cherche à faire de nous sa proie, en faisant que de chrétien, nous retournons simplement à l'état de simple homme. Et l'état de simple homme, c'est l'état de proie du démon. Car l'état de simple homme n'existe pas. Il y a l'état d'innocence qui n'existe plus, il y a l'état de déchéance, qui est celle de tous ceux qui ne sont pas in Christo, et il y a l'état de chrétien, c'est-à-dire d'homme spirituel, et cet état-là ne permet pas que nous déposions la cuirasse et le casque, ni tout le reste d'ailleurs, le bouclier, l'épée, etc. Nous devons donc, mes très chers frères, prendre conscience, non pas d'une façon obsessionnelle, mais d'une façon sainte et saine, de cette présence active du démon autour de nous, spécialement en ce temps de la sexagésime. Nous devons essayer d'ouvrir nos yeux spirituels, et comme Élisée a montré à son serviteur l'armée céleste qui entourait la ville, qui était assiégée par les Assyriens, et qui lui a dit « ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous », eh bien nous devons non pas demander à Dieu de pouvoir voir les démons, mais nous devons, au moins en tant que chrétiens, imaginer ces démons rôdant autour de nous. Ces démons, ce n'est pas très difficile de les imaginer autour de nous, ils rôdent, leurs manifestations, très lointaines, mais c'est les panneaux publicitaires, c'est les mauvais regards, c'est le prochain qui nous choque, qui nous provoque au péché. Bien sûr, non pas que le prochain soit un démon, mais il est un agent du démon, sans savoir la plupart du temps, quoique souvent il s'en doute bien. Alors, si déjà nous voyons des signes avant-coureurs du démon, essayons d'imaginer les démons. Vous voyez, lorsque nos pères bâtissaient les cathédrales, ils mettaient à l'extérieur toutes sortes de monstres, toutes sortes de démons pour rendre visible cette idée du fait que les démons sont entourés. Vous voyez, les démons sont postés sur les toits des églises et regardent ceux qui passent en bas pour se jeter sur eux. Et s'ils ne peuvent pas véritablement se jeter sur eux, c'est du moins pour leur vomir quelque chose qui sort de leur gueule, puisque les démons sont, les gargouilles sont des gouttières, comme vous le savez. Eh bien, cela symbolise toute l'ordure que le démon peut arriver, sinon à nous faire, disons, s'il ne peut pas arriver à nous faire apostasier, du moins il peut nous arriver à nous faire dégouliner de d'ordure. Essayons d'imaginer un tout petit peu, sainement, sans délire, bien entendu, tous ces démons qui tournent autour de nous, qui rugissent, et qui sont jaloux de nous. Ils sont aussi jaloux qu'ils sont impuissants. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien pour aller vers eux, si nous restons in Christo, dans la tour forte du Christ, ils ne peuvent rien contre nous, parce qu'ils sont enchaînés, liés, et ils ne peuvent absolument strictement rien contre nous. La seule chose, si nous allons vers eux, alors d'une certaine manière, nous leur donnons la force, une force sur nous, selon cette parole de l'apôtre, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ces oiseaux qui picorent le bon grain tombé sur la malheureuse terre battue sont semblables aux démons, représentent ici les démons. Développons cet effroi salutaire, mes très chers frères, un effroi salutaire à l'idée des démons postés autour de nous pour nous perdre. Il y a aussi une autre façon de mal recevoir le bon grain. Une autre partie tomba sur la pierre, c'est-à-dire la terre, le terrain caillouteux, la terre pierreuse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, mes très chers frères, sachez que les bonnes inclinations et la piété ne subsistent souvent que parce que rien ne s'y oppose, et que la passion dominante n'est pas attaquée. La terre pierreuse, apparemment, ce n'est pas une terre qui est stérile, puisque le grain peut germer dessus. Ce n'est pas forcément une terre que l'on voit être mauvaise, puisque la terre recouvrant la pierre, on ne peut pas voir a priori que juste sous 1 cm ou 2 de terre, eh bien, il y a de la pierre qui empêche les racines, l'enracinement. Les bonnes inclinations et la piété ne subsistent souvent que parce que rien ne s'y oppose et que la passion dominante n'a pas encore été attaquée. Mais tout disparaît quand on est menacé de perdre ce qu'on aime plus que Dieu sans s'en apercevoir. Pourquoi est-ce que tant de gens qui ont reçu la parole de Dieu avec une certaine allégresse, qui l'ont reçue avec joie, comme dit notre Seigneur, pourquoi se fait-il que c'est beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, la reçoivent avec joie, mais n'ont pas de racines, parce qu'ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Qu'est-ce que la tentation ? La tentation, ici, ce n'est pas la tentation démoniaque, c'est la mise à l'épreuve, c'est l'épreuve. mise à l'épreuve de la foi. On vous dit, il faut croire, vous croyez, parce que vous avez reçu une grâce pour croire. Vous croyez avec joie, ah, que je suis heureux d'être chrétien. Bon, maintenant, il faut avoir les œuvres de la foi. Alors évidemment, si on vous a dit, il faut croire pour que la France soit grande, et si après coup, on vous dit, ah ben, j'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi avoir les œuvres, et des œuvres qui se traduisent essentiellement par la crucifixion et la mortification, c'est pas étonnant que la personne va vous dire, ben, attendez, c'était pas dans le contrat initial. Ah, je ne savais pas. Moi, je me suis converti au catholicisme pour que la France soit grande. Hein, rendre la France grande à nouveau. Hein, ça, c'est ça le but du christianisme, comme chacun sait. Je ne savais pas qu'il fallait maintenant avoir les œuvres de la foi. Maintenant, vous me dites que les œuvres de la foi, c'est diminuer pour que le Christ croît, c'est mortifier la passion dominante. On m'avait dit que si ma passion dominante c'était la paresse, je devais faire un blog, je devais distribuer des prospectus, et je pensais que c'était ça, mortifier. Ah non, c'est pas du tout ça. On vous a trompé. Ah, comment? Mais on m'a trompé, pourtant, j'ai entendu l'évangile, et je l'ai reçu avec joie. Mais qui vous a prêché? Ah, d'accord, quelqu'un qui n'était pas missionné, un agent du diable, un stérilisateur de semences, un groupe d'agriculture véreux, d'agriculture spirituelle véreux. Ah, tout se comprend. Maintenant, vous êtes tenté par l'apostasie, vous êtes tenté de ne pas pousser de racines, parce que on vous avait pas appris tout ça. Oui, évidemment, c'est un peu une caricature, j'en suis conscient, mais ce n'est pas très très loin de la réalité, en réalité, mes très chers frères. C'est ceux qui croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, au moment où il faut faire ses preuves, ils se retirent. Ils se retirent en disant, « Ah ben, si ça va jusque-là, moi je suis pour l'équilibre. » Ah, vous êtes pour l'équilibre. Vous n'auriez pas dû devenir chrétien alors. Mes très chers frères, tout disparaît quand on est menacé de perdre ce qu'on aime plus que Dieu et on ne s'en était pas aperçu jusque-là. Lorsque les exigences des maximes de l'Évangile s'imposent à nous, à notre détriment, au détriment du vieil homme en réalité, alors tout d'un coup, il n'y a plus de racines. Il y a un cœur de pierre. Il y avait un peu de terre, suffisamment de terre pour être fécondé par quelque chose qu'on a lu sur Facebook, qu'on a entendu sur l'Internet ou ailleurs, mais pas assez pour pousser des racines. Voyez-vous, mes très chers frères, à ceux à qui nous prêchons l'Évangile, nous disons, si votre cœur est un cœur de pierre, nos maîtres, nos pères, seuls les larmes de la pénitence peuvent amollir la terre, peuvent amollir la pierre jusqu'à la rendre terre. Nous y reviendrons dans un instant. Si on ne fait pas pénitence pour ses péchés, si on ne verse pas extérieurement ou intérieurement des larmes pour les péchés qu'on a commis par le passé et encore aujourd'hui, le cœur de pierre demeure pétrifié. Le cœur demeure pétrifié. Un cœur de pierre n'est pas exclusif de la joie de croire. Ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie. Il y a une grande joie. Mais leur cœur est un cœur de pierre. Pourquoi? Parce qu'avec cette joie, ils veulent rester dans, finalement, la surexcitation, la joie charnelle, la joie selon le monde, la joie de pouvoir contribuer au retour du roi, au retour d'une vraie république catholique, une retour d'une dictature chrétienne intégriste. Mais quand il s'agit de pousser des racines, cette joie s'avère une joie finalement diabolique, une joie démoniaque. Cette joie qui a été la joie qui a correspondu à quelques grâces d'amorce qui ont été données, correspond désormais à la joie du diable qui voit cette personne être en train d'être prédamnée, si j'ose dire, d'être grillée vivante sous le soleil de la grâce qui normalement devrait la faire pousser et qui est en train de la griller, de la dessécher parce qu'elle refuse de pousser des racines dans une terre qu'elle refuse d'humidifier, d'hydrater par les larmes de la contrition, les larmes de la pénitence. Il y a une troisième façon de mal recevoir le bon grain, mes très chers frères, c'est de recevoir parmi les épines. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines croissantes avec elles l'étouffèrent. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole et qui s'en vont ensuite étouffés par les sollicitudes, les richesses, les plaisirs de la vie, et qui ne portent pas de fruits. Attention, il ne faut pas dire, ah oui, moi je suis pas un enfant de riche, là, qui est, moi je gagne ma vie, je ne suis pas dans ce cas-là. D'accord, bon, Deo gratias, mais il ne porte pas de fruits. On n'a pas besoin d'être né avec une cuillère en or dans la bouche pour être étouffé par les sollicitudes de la vie. On peut être riche d'une toute petite chose qu'on chérit plus que Dieu. Et ne pas porter de fruits, excusez-moi, mais c'est à la portée de tout le monde. Toute œuvre que l'on poursuit et que Dieu n'a pas demandé, c'est un non-fruit. La militance, mes très chers frères, a ceci de particulier que tout ce qu'on prêche aux autres, souvent il y a sans doute quelque chose, un aspect psychologique très étonnant très naturel chez le militant, c'est que tout ce qu'on prêche aux autres devient stérile pour nous-mêmes. On est pris par la passion de convaincre, la passion de convertir, la passion de dominer en réalité, parce que c'est ça en fait, hein, la passion de faire des convertis, la passion d'exhiber les convertis, regardez cette telle personne, ah c'est un gros poisson que j'ai amené à l'église, regardez l'abbé est très content de moi, ah ça c'est vraiment, regardez il sort de la Sorbonne, il sort de Sciences Po, ça c'est, ah regardez, on dit même Saint-Cyr, l'ENA, etc., oh là là là, c'est un gros poisson, regardez ce que j'ai trouvé. Ah oui, on comprend pourquoi vous êtes tellement passionné par la chasse au gros. En fait, vous êtes la passion de convaincre, la passion de convertir, c'est l'exact contraire de la sollicitude pour les églises dont faisait preuve Saint Paul dans l'Épître que nous avons entendu tout à l'heure. Cette passion de convaincre, cette passion de convertir, cette passion de dominer, en réalité, provoque souvent, et bien souvent d'une façon secrète, c'est un secret pour personne, ou plutôt c'est un secret de Polichinelle, une sorte de compensation, c'est-à-dire qu'on s'accorde tout jusqu'au péché, de toute façon, hein, il y a la confession, hein. Bon, Dieu n'a pas donné la confession pour les chiens, donc du coup, il faut utiliser le confessionnal, sinon il prend la poussière. Donc on s'accorde tout jusqu'au péché, inclusivement, parce qu'on se croit du bon côté. Ah oui, bon, je prêche la morale, etc. Bon, je tombe lamentablement, mais attention, je suis du bon côté, hein. Moi je sais quelle est la loi, et la loi, vous inquiétez pas que je fais au moins un post par jour pour la rappeler à mes followers. Ah oui, c'est très bien, c'est très très bien, tout à fait ça qu'il faut faire. Dieu, bien sûr, doit être reconnaissant, Dieu est reconnaissant, Dieu est si reconnaissant pour ce que nous faisons pour lui, qu'il ne peut pas nous damner, hein, sans être ingrat. Ah oui, si Dieu me donne, il va être ingrat. C'est pas lui qui a fait la page Facebook, c'est pas lui qui a 10 000 followers, c'est pas lui qui a des pouces bleus tout le temps. C'est grâce à moi qu'on s'intéresse à l'Évangile. Pauvre Dieu. Il n'a pas encore, il n'a peut-être même pas un modem chez lui. Donc il se trouve, mes très chers frères, que vous voyez, on prêche aux autres, et par un secret retour de bâton, on est violemment tenté de faire le contraire de ce qu'on dit. On prêche contre toutes sortes d'horreurs qui se font chez les méchants, chez les pires des méchants, pas chez tous les méchants heureusement, mais chez les pires des méchants, et on est soi-même fasciné. Vous voyez, on milite contre toutes sortes de monstres, et finalement on collectionne les images qu'ils produisent, et on les regarde avec complaisance. C'est un secret de Polichinelle. On est contre le satanisme, et finalement on est fasciné par le satanisme. On est contre la franc-maçonnerie, on a des tiroirs pleins de tabliers exorcisés qu'on exhibe comme ça, en frissonnant, en se donnant des frissons, et à la première occasion, on revêt une petite cape et une petite épée, et puis on se fait adouber, parce qu'on est tellement fasciné par ça, qu'on ne peut pas s'empêcher de faire exactement la même chose, et de devenir un chevalier en chambre, comme un vulgaire franc-maçon. Mes très chers frères, on n'a pas besoin d'être un gros richard capitaliste pour être étouffé par les épines des sollicitudes et des richesses. Il suffit d'être adonné à ce que l'on aime le plus, à ce qu'on aime le plus, et ce que l'on aime le plus la plupart du temps, c'est de prêcher sur les toits sans mission. Et ceci étouffe. Les épines croissantes avec elles l'étouffèrent. S'il est déjà horrible de voir les oiseaux picorer le bon grain, s'il est triste comme tout de voir le bon grain, la petite plantule être grillée par le soleil, il y a peut-être quelque chose d'encore plus infect et horrible à imaginer les épines qui croissent tout doucement autour et avec le bon grain et qui progressivement, comme un gros boa atroce, l'étouffe, l'écrase, et casse tous ses os les uns après les autres sans qu'il ne s'en rende compte, et il est dévoré vivant. Pour un peu, il nous aurait englouti vivant. dit le psaume. Eh bien, c'est ce qui arrive si le Seigneur ne donne pas sa grâce efficace. Les sollicitudes indues, tout ceci nous porte à ne pas porter de fruits ou à porter des fruits dont nous sommes fiers, mais dont nous seuls sommes fiers, qui sont des fruits de mauvaise qualité, quoi qu'on s'imagine qu'ils sont des fruits de bonne qualité. Ce sont des fruits pour le démon, ce sont des fruits vénéneux. Et nous sommes entourés de ces épines qui nous broient tout doucement et qui nous étouffent. Il y a quand même, Dieu merci, parce que Dieu nous aime, une bonne façon de recevoir le bon grain. C'est notre deuxième point. Notre Seigneur dit, une autre partie tomba dans une bonne terre, et ayant levé, elle porta du fruit au centuple. Et l'explication est la suivante, ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Une part sur quatre porte du fruit. Faisons-nous partie de cette catégorie, mes très chers frères ? Alors vous allez dire, je l'espère, comment le savoir ? Il n'y a qu'une seule façon, non pas de le savoir, mais de faire que nous soyons de cette catégorie, c'est d'accueillir le bon grain de la parole de Dieu et de porter des fruits. C'est pour cela que les auteurs nous disent que pour faire germer la semence de la parole de Dieu, il faut trois choses, la pénitence, la charité et la patience. Il faut d'abord la pénitence. La pénitence, qu'est-ce que c'est? Vous allez dire, on parle souvent de pénitence, vous en parlez aussi assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors effectivement, c'est une bonne question. Il faut de temps en temps revenir aux fondamentaux et se souvenir des définitions des mots. Qu'est-ce que la pénitence ici? Alors on ne va pas faire une dissertation sur la pénitence. Je dirais simplement que par pénitence, on entend l'organisation de la vie en fonction de la mortification des passions dominantes. L'organisation de la vie en fonction de la nécessaire abstinence relative au péché passé, l'organisation de la vie de façon à prévenir les tentations par le fait d'éviter les occasions proches et les occasions lointaines de péché. C'est ça, grosso modo, une vie de pénitence. Une vie de pénitence, c'est pas quelqu'un qui fait la tronche toute la journée et qui se flagelle et qui est ostensiblement qui a une phase de carême, comme on dit. Ça, c'est pas du tout ça, la pénitence. Ça, c'est une, ça, ça même pas, ça même pas, même pas duré très longtemps. Ça dure l'espace de, d'une rencontre, l'espace de, ça, ce n'est pas ça, la pénitence. Tout le monde en convient. Mais qu'est-ce que la pénitence? La pénitence, c'est l'organisation de la vie afin que nous qui avons péché et qui sommes encore pécheurs ne péchions plus avec l'aide de la grâce de Dieu. Et quand on dit avec l'aide de la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui féconde l'organisation pratique que nous nous imposons, le régime que nous nous imposons. On ne va pas dire je ne fais strictement rien parce que ça serait du pélagianisme, mais j'attends la grâce de Dieu pour qu'elle me donne de faire pénitence. Mais alors là, c'est, effectivement, certes, vous n'êtes pas pélagien, mais vous êtes idiot. Ce qui revient à peu près au même, d'une certaine manière. Vous êtes quiétiste ou je ne sais pas. Vous vous attendez à ce que Dieu qui vous donne la force fasse les choses que, pour lesquelles la force vous a été donnée de faire. Il faut organiser sa vie en fonction de la mortification de nos passions dominantes. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, je suis gourmand, je vais faire très attention à ne pas me laisser aller à me complaire dans les choses qui relèvent de la gourmandise. Je suis colérique, par exemple, je dois faire très attention, je dois organiser ma vie de telle sorte que je sois toujours sur mes gardes, j'arrive à être toujours sur mes gardes, de telle sorte que lorsque la tentation de me mettre en colère arrive, eh bien, je puisse y réclamer et utiliser les grâces nécessaires. J'ai une mauvaise tendance, des mauvaises pensées, je dois faire très attention de bannir de ma vie tout ce qui peut être des mauvaises images, tout ce qui peut être des publicités indues, etc. Ça commence par quoi? Ça commence, si j'ose dire, c'est tout bête, ça commence par mettre une étiquette sur sa boîte aux lettres, publicité refusée, merci. Vous allez dire, vous voyez, c'est tout bête. Alors vous allez dire, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Faites ce que vous pouvez. On ne vous demande pas d'aller forcément toujours arracher les images que vous voyez dans la rue. C'est très difficile. Et puis aujourd'hui, comme ce sont des trucs, des écrans, etc., il vaut mieux peut-être pas toucher de peur d'avoir des amendes et de passer pour un trublion à l'ordre public. Faites autant que vous pouvez. Vous voyez, vous avez tendance à être boulimique dans la lecture, vous lisez tout et n'importe quoi, il vous faut absolument lire un chapitre de saint Thomas chaque jour, sinon vous vous sentez pas bien, etc. Eh bien, donnez votre somme théologique à un prêtre qui en a besoin, et vous, eh bien, contentez-vous de lire l'évangile et l'épître de messe, quand on est laïque. Vous voyez, vous allez dire, pourtant, est-ce que c'est pas bien? Non, c'est pas bien, non, c'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal, c'est pas du tout normal qu'on soit boulimique de théologie quand ce n'est pas son état. C'est-à-dire, mais il faut s'instruire, oui, mais alors lisez le catéchisme, méditez le catéchisme, lisez des livres à votre portée. Ah, vous me prenez pour un imbécile, pour un idiot. Qui a dit ça? Je vous prends pour ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ça. C'est comme si un prêtre collectionnait les couches pour bébé, les lotions, etc. Parce que les mamans, ça relève, les mamans doivent le faire. Oui, mais c'est pas une maman. C'est pas une maman. Qu'est-ce que ça fait chez lui, ça? Vous allez dire, c'est monstrueux ce que vous dites. Ben, c'est tout aussi monstrueux le laïc qui a des sommes théologiques, qui a tout l'intégrale de je sais pas trop quelle, etc., qui est chez lui, alors qu'il est tout le temps en train de potasser. Mais c'est pas son devoir d'État. Ce n'est pas normal. Et si vous êtes choqué par l'exemple ridicule que j'ai donné du prêtre, eh bien, c'est la même chose, c'est exactement, soyez choqué de la même manière. Si nous sommes boulimiques, nous ne pouvons pas nous empêcher alors autre chose, je ne peux pas nous empêcher d'être tout le temps fourré sur l'Internet en train de regarder des nouvelles, etc. Ben, coupez l'Internet, privez-vous-en. C'est une chose qu'on devrait faire beaucoup plus souvent. Vous êtes tout le temps en train de regarder les dernières nouvelles, les dernières horreurs, vous êtes abonné à des sites où on recense absolument toutes les horreurs qui se font, et après vous vous dites, oui, je suis totalement bouleversé, j'ai envie de pourfendre mon prochain. Oui, mais c'est pas étonnant, vous infligez chaque jour un concentré d'horreurs. Je ne dis pas, alors vous allez dire, vous niez ces horreurs, je ne nie pas ces horreurs. C'est une chose que d'en être conscient, c'est une chose de savoir que ça existe, puis c'en est une autre que se sent repaître. Parce qu'il y a certains sites qui ne sont pas là pour informer, mais pour que les gens se repaissent. Et ils se repaissent, et ça les intoxique d'autant plus qu'en fait, ils se sentent tellement impuissants qu'en fait, ils meurent de rage dans leur bile, c'est tout. Et quand, malheureusement, il ne faut pas le faire, mais quelqu'un se dit, bon, ben, je vais faire quelque chose, mais malheureusement, on s'aperçoit que ces choses-là l'ont poussé au crime, et c'est mal, et c'est très mal. Parce que pousser son prochain au crime, c'est un manque caractéristique de charité. Entre autres choses, l'organisation de la vie en fonction de la mortification de sa passion dominante. Ça, c'est ça la vie de pénitence. L'organisation de la vie en fonction de l'abstinence relative au péché passé. J'ai été un grand buveur. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une toute petite cave. J'ai été quelqu'un qui a vécu dans le luxe. Eh bien, aujourd'hui, ma garde-robe est très limitée. Ah oui, mais c'est difficile. Ben, c'est la vie chrétienne, mon ami, c'est la vie chrétienne, c'est la vie de pénitence. Nous sommes en train de voir là la première condition pour avoir une terre susceptible de recevoir le bon grain, de le garder et de porter du fruit. Vous voulez porter du fruit ou non? Vous voulez être compté parmi les élus ou non? C'est difficile, c'est pénible. Bien sûr que c'est pénible, mais ce qui est pénible, imaginez plutôt, c'est la mauvaise volonté, notre mauvaise volonté vis-à-vis d'un Dieu si bon. Voilà ce qui est pénible, voilà ce qui doit nous lasser. Et la prévention, organiser la vie en fonction de prévenir les tentations, les occasions de péché prochaines et lointaines. Encore une fois, si pour me rendre au travail, je dois passer dans une rue où je sais qu'il y a un spectacle qui est mauvais, eh bien, il faut que je passe par ailleurs. Oui, mais je vais perdre 10 minutes. Eh bien, prenez 10 minutes pour aller de plus pour aller au ciel. La vie de pénitence, c'est avant tout une vie organisée pour prévenir le péché et pour mortifier le péché et pour mortifier les passions dominantes. Mais ce n'est pas tout. Pénitence, charité. La charité, nous passerons rapidement parce que nous en parlons beaucoup par ailleurs, mais la charité, qu'est-ce que c'est? C'est l'épreuve infaillible qui vérifie si nous aimons Dieu. Nul ne peut aimer son frère, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, puisque Dieu est invisible, s'il n'aime son frère qu'il voit. Dieu ne nous demandera pas, dit un auteur, il ne nous demandera pas ce que nous aurons fait, les œuvres que nous aurons faites pour lui, tous azimuts. Il nous demandera si nous avons exercé la charité. La charité couvre une multitude de péchés, dit l'apôtre. Sans la charité, on ne peut pas être sauvé. Sans la charité, aucune œuvre n'est bonne. Celui qui n'aime pas son frère ne peut aimer réellement Dieu. Ça, c'est l'épreuve de la réalité, si l'on peut dire. Pénitence, organisation de la vie, charité, épreuve de la réalité de l'amour pour Dieu, et patience. Notre Seigneur mentionne cette patience, qui porte du fruit par la patience. La patience. Les nouveaux convertis, nous disent les auteurs spirituels, doivent tenir leur joie et leurs bonnes actions extérieures pour suspectes, jusqu'à ce que, par de longs exercices de vertu et de pénitence, ils aient fait naître autant de terre dans leur cœur qu'il y avait de pierre auparavant. Je vais le relire. Les nouveaux convertis, et les anciens aussi, hein, doivent tenir leur joie et leurs bonnes actions, leur joie spirituelle, qu'ils reçoivent avec joie. Les nouveaux convertis doivent tenir leur joie et leurs bonnes actions extérieures pour suspectes, c'est-à-dire non fiables, jusqu'à ce que par de longs exercices de vertu et de pénitence, ils aient fait naître dans autant de terre, de bonne terre dans leur cœur, qu'il y avait autrefois de pierre. Autant dire, je le répète, à qui veut l'entendre, autant dire que donner la parole à des gens qui viennent tout juste de se convertir, c'est véritablement tendre un piège sous leurs pas. Je ne jette pas la pierre à ces gens-là, bien sûr, parce qu'ils sont trompés par des aveugles. Mais vous savez que si un aveugle suit un aveugle, ils tomberont dans la même fosse. Le nouveau converti, c'est aussi le converti qui est peu solide, hein, on peut avoir 30 ans de vie chrétienne et être un nouveau converti, doit pratiquer le silence. Le silence, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfermement dans son état, et c'est-à-dire la vie, c'est la vie réelle. Le babillage, sous prétexte de donner témoignage, de rendre témoignage, de pourfendre certaines catégories de gens, voyez, tout ceci, ce babillage s'oppose à l'enracinement du bon grain. Vous avez de la joie d'être chrétien, eh bien c'est très bien, rendez-en grâce à Dieu. Vous faites de bonnes actions extérieures, c'est la moindre des choses quand même. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est vous taire et persévérer dans de longs exercices de vertu et de pénitence. Éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi en voyant si vous en avez les œuvres. Faites naître dans votre cœur autant de terre qu'il y avait eu de pierre jusque-là. Malheur à ceux qui induisent les nouveaux convertis à parler, à babiller, à se donner en spectacle. C'est la meilleure façon de les pousser sur la pente et de les tenter ou bien à l'orgueil ou bien à l'apostasie. Parce qu'on ne ressort jamais indemne d'une vidéo, on ne ressort jamais indemne d'un reportage, on ne ressort jamais indemne d'une interview quand on n'a pas les épaules pour le soutenir. Je ne dis pas que qu'on ne doit absolument pas le faire, je dis simplement que la plupart des gens, vous voyez, c'est bien connu, lorsque leur image leur a échappé, que leur discours aussi leur a échappé, et qu'il est maintenant diffusé sur cette toile d'araignée diabolique qu'est l'Internet, eh bien, il se trouve que ça peut provoquer un contre-coup, des chocs. Et ça, évidemment, les militants vidéastes ne s'en rendent absolument pas compte. D'ailleurs, ils s'en moquent éperdument. L'essentiel, c'est de voir combien ils ont fait de vues. Et les âmes que vous avez perdues, les âmes que vous avez consumées pour faire vos vues, ces âmes que vous avez perdues, poussées dans la pente, poussées dans le désespoir, peut-être, on regrette toujours de s'être montré sur l'Internet. Eh bien, beaucoup plus de gens doivent faire pénitence qu'ils peuvent l'imaginer. Bienheureux ceux qui peuvent entendre cela. Donc voyez, mes très chers frères, il y a bien sûr, il n'y a pas que de la stérilité dans le monde, il y a aussi la bonne terre. Mais pour être une bonne terre, pour pouvoir faire partie de la bonne terre, eh bien mes très chers frères, il faut la pénitence, la charité, la patience. Et nous terminons par notre troisième point, rapidement, par la patience, justement. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Bon et excellent, nous mentionnons simplement en passant, mais les auteurs nous disent que cette façon un peu étrange que notre Seigneur a de parler, un cœur bon et excellent, qu'est-ce que c'est? C'est la charité. Une charité, le cœur est bon lorsque la charité, lorsqu'il y a une amorce de charité, et il est excellent lorsque la charité a cru. Un cœur bon et excellent, c'est donc un cœur qui s'enflamme de plus en plus de charité. Par la patience, c'est la clé, qui la retienne et porte du fruit par la patience. La Sainte Vierge nous montre, la Sainte Vierge qui a si peu parlé et qui, après son Assomption, n'a plus jamais parlé. Elle n'a plus jamais parlé, sauf peut-être à Lourdes, où elle a dit quelque chose à Sainte Bernadette. Elle nous a dit pénitence, mais en fait, elle n'a pas vraiment parlé, puisqu'elle n'a fait que dire ce que l'Église nous dit. Et après, il n'y a pas le logorée, etc., de révélation privée. Tout ça, ce n'est pas la Sainte Vierge, c'est plutôt le démon, en réalité. La Sainte Vierge a retenu, la Sainte Vierge est la terre par excellence. Terra Nostra Dabit Fructum Suum. La Sainte Vierge est la terre par excellence, elle qui recueillait toutes ces choses dans son cœur et qui les conservait dans son cœur, dans le silence. Et c'est pour cela qu'elle a mérité d'être la mère de Dieu, celle qui est au ciel, qui intercède pour nous. Cette toute puissance qu'elle a sur Dieu, que Dieu lui donne d'avoir sur elle et sur lui, eh bien, mes très chers frères, elle le doit au fait qu'elle s'est tue, au fait qu'elle a reçu la parole dans son cœur, et d'ailleurs notre Seigneur, et qu'elle l'a conservée dans le silence. D'ailleurs, notre Seigneur le dit lorsque cette brave dame lui dit bienheureuse votre mère, et lui dit bienheureuse plutôt ma mère, parce que elle a écouté la parole de Dieu et elle l'a gardée. Elle a porté du fruit dans la patience. Quoi donc, dit un auteur, quoi donc, toujours prier, toujours travailler, toujours combattre? Oui, c'est le sort des élus. Le fruit de la parole de Dieu dans leur cœur et l'exercice continuel de leur patience. Nous devons donc, mes très chers frères, en ce dimanche de la Septuagésime, nous devons ne pas résister à une certaine terreur qui peut s'emparer de notre cœur. Attention, pas le désespoir est inspiré par la jalousie du démon, mais une certaine terreur sur quatre terres, trois finissent par rejeter plus ou moins rapidement la bonne semence. Et on ne parle même pas de la terre sur laquelle la semence ne tombe pas. De quel type de terre sommes-nous? Même si nous avons des pierres, nous pouvons les amollir, les transformer en terre par les larmes de la pénitence. Si nous avons des épines, nous pouvons arracher les épines avec l'aide de la grâce de Dieu en mortifiant nos passions dominantes. Et si il se trouve que nous sommes visités par les oiseaux, eh bien nous pouvons même être l'épouvantail de la crainte de Dieu, si j'ose dire, sans ironie du tout. L'épouvantail de la crainte de Dieu, faire des règles de la vie chrétienne, l'épouvantail qui écarte ces oiseaux jusqu'à ce que nous ayons ameubli la terre que nous avons laissé être battue par toutes les pensées, par toutes les choses que nous avons laissé traverser notre cœur d'une façon régulière et récurrente. Laissons une certaine terreur s'emparer de nos cœurs, qui ne soit pas du désespoir, mais qui soit une terreur de crainte de Dieu. Et crions les cris que l'Église même nous met dans la bouche en ce jour. Réveillez-vous, pourquoi dormez-vous Seigneur? Réveillez-vous, c'est l'introïte. Ne nous repoussez pas sans trêve. Pourquoi détourner votre face et oublier notre détresse? Notre ventre se colle à la terre. Réveillez-vous, Seigneur, et venez aider, aidez-nous, venez nous délivrer. Seigneur, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté vos œuvres. Nous avons reçu le bon grain. Maintenant, Seigneur, venez à notre secours. Des nuées d'oiseaux arrivent. Le soleil de votre grâce se levant sur un cœur de pierre est en train de détruire ce qu'il y a, de laisser détruire ce qu'il a semé. Et les épines des sollicitudes de notre volonté propre est en train d'étouffer le bon grain que vous y avez semé. Vous voyez, Seigneur, que, et c'est la raison d'aujourd'hui, que vous voyez que aucune de nos actions ne nous inspire confiance. Accordez-nous contre toute adversité la puissante protection du docteur des nations. Aucune de nos bonnes œuvres ne nous inspire confiance. Voilà ce que nous devons dire à ce Dieu devant lequel nous devons trembler, et ce que nous devons dire à ce Dieu que nous aimons et qui nous aime, en fuyant devant les épines qui rampent, devant le soleil qui va nous brûler, devant les oiseaux qui veulent nous dévorer. Demandons à Dieu la grâce efficace qui triomphe de notre amour propre, mes très chers frères. C'est une œuvre colossale, évidemment, impossible à l'homme, impossible à l'homme. C'est pour ça que nous avons dit à Dieu, exsurgez, réveillez-vous, Seigneur. Nous voulons, je vous renvoie à ce que nous avons dit par rapport à cette prière, prier contre soi-même. Ne nous abandonnez point à la tentation, ne nous abandonnez point à nos propres forces, mais délivrez-nous du mal que représente notre volonté propre par l'effet de votre grâce toute puissante et invincible, la grâce efficace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.